Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Bientôt un vaccin contre le palu. L'annonce a été faite cette semaine. C'est le fruit de 2 années d'études menées par le Centre de recherche et de formation sur le paludisme au Mali en collaboration avec l'Institut de recherche des sciences de la santé au Burkina Faso. Les résultats de cette étude menée à Bougouni, Wélessébougou, Koumantou au Mali et dans la localité de Houndé au Burkina Faso ont été présentés le 6 septembre dernier. L'annonce de ce vaccin va changer quoi dans la lutte contre le palu au Mali et en Afrique? Comment faciliter son accès à la population? À quand son homologation par l'OMS? Pour répondre à ces différentes questions, nous sommes avec 2 spécialistes du paludisme aujourd'hui, Dr Idrissa Cissé, coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, professeur Alassane Diko du Centre de recherche Ogbara Doumbo de l'unité clinique de recherche de Bougouni. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage de Moussa Malé Sissoko sur le sujet.
Cette étude a été effectuée sur 6000 enfants âgés de 5 à 17 mois au Mali et au Burkina Faso entre 2017-2019. Professeur Alassane Diko est le chef de l'unité de recherche clinique de Bougouni et de Wélessébougou.
C'est un vaccin qui est fabriqué par un laboratoire qui s'appelle GSK. Plusieurs scientifiques de différents groupes hors de l'Afrique travaillent pour aider à évaluer ce vaccin et montrer si ce vaccin peut être un outil additionnel pour la lutte contre le paludisme. Donc nous avons évalué ce vaccin-là. Nous avons fait le travail en collaboration avec nos partenaires du Royaume-Uni, notamment l'École de santé publique de Londres. Et nous pensons que ça va révolutionner et ça va avoir un impact important dans la lutte contre le paludisme.
L'arrivée d'un vaccin contre le paludisme est une lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie, déclare Dr Idrissa Cissé. Pour le coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme au Mali, des efforts devront être fournis par le gouvernement en vue de faciliter l'accès à ce vaccin.
C'est très difficile de dire à quand, mais ce qui est dit, l'OMS est en train de travailler activement sur ce résultat. Maintenant, l'OMS va voir comment ces stratégies peuvent être affinées pour rendre disponibles. Et donc, quand ils vont définir les normes, nous allons travailler de manière à intégrer dans notre politique.
Les résultats de cette étude indiquent qu'au Mali, 73% des décès sont liés au paludisme.
Je commencerai par vous, professeur Diko. Où en sommes-nous avec le vaccin?
Bonjour, madame Mega. Donc, où est-ce qu'on est avec le vaccin? Vous venez de le dire. Le vaccin, nous l'avons testé sur environ 6 000 enfants au Mali et au Burkina Faso. Et nous avons trouvé que quand vous donnez le vaccin, en début de saison de transmission, et que vous l'ajoutez aux stratégies actuelles, qui sont, entre autres, la chimioprévention du paludisme saisonnier, vous avez une réduction substantielle additionnelle de 73% des décès et de 70% des hospitalisations dues au paludisme grave. Donc, vraiment, un niveau d'efficacité qui n'a jamais été obtenu, un impact extrêmement important sur le paludisme qui n'a jamais été obtenu, et pour ce premier vaccin contre le paludisme.
Un niveau d'efficacité qui n'a jamais été obtenu. Les résultats sont-ils prometteurs, M. Cissé?
Oui, merci beaucoup. Et avant tout propos, je vous remercie de nous avoir accordé en tout cas cette opportunité de nous exprimer. Après avoir déjà livré les résultats, en tout cas pour ce qui concerne ces vaccins. Et vous l'avez bien dit, c'est un résultat que nous attendons fort longtemps. Vous savez, la recherche, ça a beaucoup, depuis des années, on est dessus. Et comme il a dit, c'est une première de voir déjà un résultat à ce niveau-là. Donc, nous l'attendons depuis longtemps. Et vraiment, c'est la chose qu'on peut dire, ça nous estime. Vraiment, nous sommes très heureux pour ces résultats. Et s'il y a quelqu'un qui doit tirer vraiment profit et chapeau, c'est moi en tant que coordinateur du programme PALU. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Mali, au Mali, le PALU constitue un véritable problème de santé publique. Vous l'avez dit, autant de décès, autant de cas. Si ce vaccin venait à renforcer encore ce que nous faisons, j'en suis sûr quand même que le défi que nous avons à relever, qui est d'ici 2030 d'éliminer le paludisme, nous serons vraiment dans la bonne ligne de pouvoir le faire.
Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur le paludisme actuellement au Mali?
Oui, quand on regarde globalement, annuellement, on a à peu près 2 600 000 cas de palu, dont plus de 1 500 à peu près décès. Et comme vous le savez, à chaque période de saison de pluie, quand les pluies sont fortes, il faut s'attendre à des cas, beaucoup plus de cas. C'est le cas cette année, et rendu difficile aussi du contexte Covid, mais rendu difficile aussi de l'insécurité à pouvoir atteindre certains de nos districts, surtout dans les régions nord et le centre. Donc ceci rend un peu l'accès aux soins un peu difficile, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette année, nous avons eu un peu plus de cas de paludisme et par malheur souvent aussi, pour ne pas dire des cas de décès malheureusement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est inconcevable de voir un enfant mourir de palu. Je le dis parce que nous avons les moyens de combattre. Les médicaments sont là, ils sont démontrés efficaces. Nos services de santé ont été suffisamment armés pour faire face au cas. Et aujourd'hui, il est souvent très difficile, voire même insupportable pour nous de voir des enfants mourir de palu. Mais la nature des choses, surtout les circonstances du pays, font quand même que certaines populations ont certainement des accès très difficiles du fait de l'insécurité. Vraiment, ils n'arrivent pas à avoir accès aux services. Et très souvent, ce que nous constatons, c'est des recours tardifs aux soins. Et malheureusement, les enfants, souvent, on les voit venir décéder sous nos mains, ce qui est vraiment aujourd'hui très douloureux.
Peut-on savoir les couches les plus vulnérables face à la maladie, les localités les plus touchées par le paludisme?
Bien entendu que vous l'avez bien dit, hein, le palu, de longtemps, ça a été la cible la plus fragile, en tout cas, c'est les enfants, en tout cas, avant 5 ans, mais aussi les femmes enceintes. C'est les cibles privilégiées du palu, où nous notons beaucoup plus de cas de décès, malheureusement. Et donc, ces deux cibles sont la priorité pour nous en tant que ministre, en tant que programme PALU, et qui fait aussi la priorité. Parce que si on vous a parlé de la recherche, vous avez vu que le vaccin est à l'endroit des enfants beaucoup plus avant 5 ans. Donc, cela n'est pas du fait au hasard, parce que cette vaccination vient apporter un plus à ce que nous faisons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons des stratégies que nous utilisons à l'endroit de ces cibles fragiles, notamment chaque année, en cette période de saison de pluie, nous faisons ce qu'on appelle la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Ça veut dire quoi? C'est d'administrer des médicaments à des enfants pendant la période où nous sommes en période de pluie, pour éviter que les enfants ne fassent, en tout cas, le paludisme. Et c'est cette même stratégie qu'ils ont utilisée pour renforcer à travers le vaccin. Donc, le vaccin viendra en addition à ce que nous faisons, qui est la CPS. Et cette prouesse même de la CPS est venue toujours de ces mêmes centres de recherche. C'est grâce à eux que nous utilisons et ces médicaments qui restent encore efficaces. Mais le vaccin viendra encore augmenter l'efficacité, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus qui va être ajouté à la CPS et qui, l'a dit, fera que nous aurons à peu près 73% de moins de décès et 70% d'hospitalisation. Si nous arrivons à ça, je suis sûr que nous allons avancer très rapidement et le retard que nous avons eu à accuser, nous pourrons très rapidement rattraper le retard. Le Mali fait partie des 11 pays où le palu constitue une charge élevée. Et je pense quand même, nous le sommes aujourd'hui, mais je pense qu'avec cette prouesse, et si nous arrivons à l'adapter à nos stratégies et à pouvoir l'appliquer, je suis sûr que nous allons gagner du terrain.
Le centre de recherche est là avec nous, au nom du professeur Alassane Diko. Monsieur Diko, on a appris que le nom du vaccin, c'est RTSS. Son nom veut dire quoi?
Le nom, ça c'était le nom scientifique que les scientifiques qui ont découvert le vaccin ont donné. Donc R, c'est un peu pour répétition, T, c'est pour lymphocytes, S, c'est pour surface antigène, et l'autre S, c'est pour encore surface antigène de l'hépatite B. Donc c'est le nom technique. Le nom commercial sur lequel le vaccin va être mis sur le marché, c'est Mosquirix.
Mosquirix.
Mosquirix. Donc c'est comme ça, quand vous allez commencer à
l'avoir sur le marché. Vous pouvez nous l'appeler quand même Mosquirix.
Mosquirix, ça s'écrit avec M-O-S-Q-I-R-I-X.
C'est compris. Et de quoi est-il composé?
Il est composé d'une protéine de la surface du parasite, essentiellement, qu'on appelle circumsporozoïde protéine, c'est-à-dire la protéine circumsporozoïde du paludisme. Donc, je ne veux pas entrer dans les termes techniques comme vous m'avez demandé,
voilà.
Mais c'est un petit morceau sur le sporozoïde du parasite.
On peut l'appeler candidat vaccin, vu que ce n'est pas encore homologué, c'est ça?
Lui, on peut l'appeler vaccin, parce que c'est un vaccin qui a passé le niveau d'évaluation, qui a complété le niveau d'évaluation, qui est la phase 3 d'évaluation, et qui a montré une efficacité en phase 3 et une tolérance suffisante en phase 3. Alors, on voulait le commencer à le mettre en œuvre, mais l'Organisation mondiale de la santé a demandé qu'il faut qu'il y ait des évaluations additionnelles. Donc, ces évaluations additionnelles sont les évaluations additionnelles que nous venons de faire, mais surtout, ils veulent aussi se rassurer que ça soit donné à des centaines de milliers d'enfants pour regarder, un, est-ce que ça peut rentrer facilement dans les programmes de vaccination? Deux, quand vous le donnez à des centaines de milliers d'enfants, quel est l'impact? Alors, ces résultats sont aussi attendus, mais ce qui est le plus important, c'est nous qui avons montré la meilleure façon d'utiliser ce vaccin. En le donnant, nous pensons que pour les pays où la transmission est saisonnière, il faut le donner en début de saison de transmission. Parce que le vaccin a une forte efficacité pendant quelques mois, mais après quelques mois, l'efficacité diminue. Deuxième chose, ce que nous avons dit, donner une dose de rappel en début de chaque saison de transmission. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et la troisième différence avec notre travail par rapport aux autres, c'est que nous avons fait au-dessus d'une stratégie qu'on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier qui existe déjà pour les pays du Sahel. Les évaluations dans les autres pays sont en train d'être faites dans les zones où la transmission n'est pas saisonnière, où ils l'ont mis seulement comme ça tout au long de l'année.
Et c'est le fruit de combien d'années de recherche?
C'est le fruit de près d'une vingtaine d'années de recherche. Oui, c'est une vingtaine d'années de recherche. Donc, le vaccin, ça prend du temps pour être... tous les produits que vous voyez, la plupart des produits que vous voyez, et que ce soit les vaccins, que ce soit les médicaments, très souvent, ça prend en moyenne 12 années pour le développer. Le temps que vous avez identifié la molécule, que vous testez d'abord chez les animaux, que vous montrez que c'est bien toléré chez les animaux, que ce n'est pas toxique pour les animaux, que ça génère de l'immunogénicité s'il s'agit des vaccins, avant de passer d'abord chez les hommes. Et chez les hommes, on va commencer avec un tout petit nombre. On va commencer avec des adultes qui sont volontaires. C'est à eux qu'on va donner. Une fois que chez les hommes, chez les hommes en petit nombre, ces résultats sont confirmés, vous partez à ce qu'on appelle une phase 2. Dans la phase 2, vous allez essayer encore, toujours regarder si ça ne fait pas du mal à l'homme, mais aussi commencer à regarder quelle est la dose la plus appropriée, quel est le rythme d'administration qui est la plus appropriée et quel est l'effet en termes d'efficacité. Après ça, que vous allez engager, si tout ça est bon, que vous allez passer à une phase 3, où vous allez prendre des milliers au moins d'enfants dans différentes localités et auxquelles vous allez administrer le vaccin. Regardez encore ces trois paramètres. Excusez-moi. Ces trois paramètres, c'est-à-dire la sécurité, l'efficacité et l'immunogénicité. Donc, ce vaccin a passé ces trois étapes. C'est pourquoi c'est le seul vaccin pour le moment qui a passé les
Allez-y, prenez de l'eau. Alors, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de ce vaccin contre le paludisme du nom de Mosquirix. À la Sandico, vous avez la parole. Qui est qui l'ont développé alors?
Qui est qui l'ont développé? C'est d'abord le laboratoire qui l'a fabriqué, qui a commencé les premiers essais. Il y a une forte contribution de l'armée américaine. OK. Je profite pour dire que beaucoup de médicaments contre le paludisme ont été découverts grâce à l'armée américaine. Parce que quand ils partent dans les zones, sur le terrain où il y a le palu, c'est le palu qui les tue plus que... Ils perdent plus d'hommes à cause du palu qu'à cause de la guerre même qu'ils mènent. Donc beaucoup de médicaments, la chloroquine, beaucoup d'autres, ont été découverts par l'armée américaine. Donc l'armée américaine a contribué, mais celui qui a beaucoup investi dans le développement de ce vaccin, c'est la fondation Bill et Melinda Gates aussi. Le travail que nous avons fait a été financé par le gouvernement du Royaume-Uni sur compétition internationale qu'il organise chaque année. C'est à ça que nous avons soumis, nous avons été sélectionnés, nous avons été financés en 2017 et nous avons conduit le travail de 2017 à 2019.
Docteur Cissé, quel a été le rôle des chercheurs maliens dans cette prouesse-là?
Merci beaucoup. Je crois que tout d'abord, il faut dire que c'est une fierté pour nous les Maliens. Et j'ai toujours cru en nous, à nos chercheurs. Et je rends hommage à notre maître, le professeur Ogobra Dumbo, qui est une des références, en tout cas en Afrique, en matière de palu, qui a su, en tout cas, mettre une équipe autour de lui, de jeunes, qui l'ont accompagné depuis tous ces temps dans le cadre de la recherche contre le palu. On était convaincus quand même qu'un jour ou l'autre, on devait s'y attendre à ces résultats, parce que le sérieux et vraiment la dynamique qu'il a laissé, ça a été poursuivi par des jeunes qui ont cru en eux-mêmes et qui sont allés jusqu'à ce résultat.
Vous avez tantôt parlé du professeur Ogobra Dumbo. Est-ce à dire que les Maliens sont à la base de cette prouesse-là ou ils sont venus en appoint?
Bon, je pense que c'est un travail d'équipe, comme a dit Alassane, parce que ce travail a été fait dans deux pays, notamment le Mali et le Burkina. Et chacun de son côté avait une part de travail à faire. Et c'est ensemble que ces résultats ont permis d'aboutir à un tout. Donc je pense quand même que c'est un fruit, en tout cas le fruit d'un travail d'équipe. Et que je tiens à saluer aussi, parce que qu'est-ce qu'on veut aussi? C'est la solidarité africaine. Je pense que nous devons, en tout cas grâce à l'implication des deux équipes, notamment le Burkina Faso et le Mali. Je pense que c'est comme ça aussi. Et dans la recherche, et si on ne peut pas, on peut s'associer à d'autres, et je pense quand même qu'on a plus de chances d'avancer. Et je tiens quand même à les remercier sincèrement, parce que je dis encore une fois de plus, nous attendons, parce que l'année dernière, et le professeur Alassane Diko avait déjà lancé le mot. Nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que cela soit là, le résultat soit là. Et je pense quand même que tout le département attendait, de pied ferme en tout cas, ce résultat. Et tout le département a conscience et souci qu'aujourd'hui, le palu constitue un problème de santé publique. Qu'aujourd'hui, le palu continue à tuer. Et si aujourd'hui, on venait à trouver un vaccin qui va renforcer nos capacités, je pense quand même que nous pouvons que nous en réjouir. Et le département est très heureux, en tout cas, de ce résultat. Et j'en suis sûr, nous ne resterons pas en marche, en tout cas, pour nous impliquer très rapidement dans l'utilisation de ce vaccin.
Professeur Diko, vous avez tantôt parlé de l'implication d'un laboratoire américain GSK dans l'élaboration de ce vaccin-là. Est-ce à dire que l'Afrique n'a pas les moyens, elle seule, de développer des vaccins?
L'Afrique n'a pas encore, est encore sur la voie, cherche à développer des vaccins ou des produits. On est sur la voie.
Il y a il nous manque des choses.
Nous manque des choses, justement. On est sur la voie, ça prend du temps. En termes d'infrastructure, en termes de connaissances, en termes de plateaux techniques, en termes d'autres supports. Le pays qui est le plus, qui a commencé à faire un certain nombre, c'est l'Afrique du Sud, vous imaginez, comme vous pouvez vous attendre en Afrique. Mais les Africains sont en train d'avancer, je dois dire, le centre de formation et de recherche sur le paludisme, initié par notre maître, le professeur Dumbo et le professeur Yaya Touré, que nous saluons ici et nous rendons hommage, est sur la voie, non seulement sur le paludisme. Je pense qu'il y a une deuxième génération, comme on a dit, de scientifiques qui sont en train de travailler sur les molécules qui peuvent soit servir comme vaccin demain ou des molécules qui peuvent servir comme médicament demain. Mais la première étape était que déjà qu'il y ait des capacités qui puissent contribuer avec les autres pays à faire une évaluation rigoureuse des candidats développés, que ce soit les médicaments, que ce soit les vaccins, et qui tiennent compte de la réalité du paludisme. Parce qu'on a tenté une première fois d'éliminer le paludisme dans les années 59-60. Ça a été un gros échec, au point que tout le monde s'est retiré. Et la leçon qui a été tirée, c'est que, pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas d'Africains scientifiques en ce moment. au niveau des décisions, au niveau des planifications. Il n'y avait pas une connaissance suffisante de la maladie sur le terrain. Donc, c'est ces corrections-là qu'il fallait apporter d'abord. Il fallait avoir des scientifiques sur le terrain. Il fallait connaître la maladie, ce que nous faisons depuis 20 ans. Et c'est pourquoi nous parvenons à orienter. Une fois que nous voyons une molécule, nous identifions quelle est la meilleure façon et quelles sont les conditions dans lesquelles cette molécule-là va pouvoir apporter un effet important sur le plan de la santé publique.
Vous avez dit que c'est plus de 20 années de recherche pour arriver à ce vaccin. Pourrait-on estimer les coûts?
Les coûts sont sans doute élevés. En général, c'est des coûts très, très élevés. Quand vous prenez depuis le niveau, ce qu'on appelle les tests chez les animaux avant d'arriver, après les tests chez les humains, c'est des coûts très, très élevés. Je peux vous dire que cette étude-là, pour les 3 années, ça nous a coûté rien que... Ici, au Mali, ça nous a coûté plus de 1 million et demi de pounds. Donc, à peu près 1 milliard de francs.
1 milliard de francs CFA.
À peu près 1 milliard de francs CFA ont été investis pour pouvoir faire ce travail-là, rien qu'ici, au Mali. Donc, pour les 3 années, ça, c'est un petit morceau du travail. Donc, les coûts de la recherche sont toujours très, très élevés. Sont très élevés, mais comme vous savez, la santé, ça n'a pas de prix. Et puis, voilà. Ce que je dois dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose de très important que nous avons appris de la COVID et que nous pensons que ça va être une inspiration pour le paludisme. Nous avons vu qu'avec la COVID, quand les gens se sont mis ensemble, tout le monde s'est mis ensemble pour trouver une solution.
Effectivement, j'allais en venir. Pour faire un vaccin, ça prend du temps. Mais pour le vaccin du Covid-19, ça a été rapide.
Ça a été rapide justement parce que tout le monde s'est donné la main. C'est devenu une urgence mondiale. Tous les avions étaient cloués à terre. Toutes les économies de tous les pays étaient à terre. Donc les gens étaient prêts à mettre toutes les ressources qu'il faut pour trouver la solution. Et les ressources ont été mises à disposition et ça a donné le fruit. L'autre aspect extrêmement important pour la COVID, ce n'est pas seulement la découverte rapide, mais les organismes de régulation et de décision ont été très, très rapides et très promptes. Et nous pensons que ces résultats-là vont bénéficier de cette promptitude, okay, des organismes de régulation pour que le vaccin soit très rapidement recommandé par les organismes de régulation et que ça puisse être produit très rapidement et être mis à disposition des pays.
Si je vous résume, la lenteur du vaccin Mosquirix, c'est ça le nom, s'expliquerait par le fait que ça n'a pas de port, le palu n'est pas une maladie de portée, une maladie de masse comme le Covid-19 qui a drainer beaucoup de monde, c'est ça?
Absolument. Le palu est concentré en Afrique, au sud du Sahara. 94% des cas de paludisme et des décès du paludisme dans le monde sont concentrés chez nous, en Afrique, au sud du Sahara. Donc, ce n'est pas si ça frappait, je dirais, les autres pays qui ont plus de ressources, les solutions, je suis convaincu, seront beaucoup plus rapides. Ceci dit, il faut saluer les efforts de ces pays à aider nous, les pays africains, à lutter contre le paludisme. Toutes les stratégies de lutte aujourd'hui sont supportées de façon vraiment extraordinaire par les partenaires au développement. Le directeur du programme peut vous le dire. Ils mettent des fonds comme le Fonds mondial. Il y a des organismes comme Gavi pour les vaccins. Il y a une solidarité internationale pour nous aider. Mais il y avait le développement des vaccins antipaludiques, comme beaucoup de maladies qui n'ont pas un marché financier important, ça prend du temps. Et ça prend souvent des gens de bonne volonté, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a énormément contribué pour tout ce qui est les stratégies et tout ce qui est lutte contre le paludisme. Parce que c'est quelqu'un qui a lancé l'idée qu'il faut éliminer le paludisme. Personne ne croyait. Et il a dit qu'il veut voir le paludisme éliminé pendant qu'il est vivant.
Parlons des fonds. Docteur Duco en a parlé tout à l'heure. Est-ce que au niveau du PNLP, vous avez une idée de de l'argent injecté par le gouvernement dans ces projets de recherche?
Merci pour la question. Pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le gouvernement investit tout de suite de l'argent dans le cadre de ces recherches, mais je pense quand même, quand on dit apport du gouvernement, le professeur Ducos le sait, nous avons apporté les intrants par moment. Nous allons donner des tests pour leur permettre de faire ces travaux parce que nous avons cru en eux. Et nous avons cru parce que nous attendons que ces résultats puissent être profitables pour nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on pouvait apporter comme apport en termes d'intrants, en termes de tests, la disponibilité du personnel, tout ce qui était matériel qui pouvait être utilisé ont été mis à leur disposition. La facilité, tout cela a permis vraiment d'avancer sur le terrain. C'est un apport du gouvernement qu'il faut voir dans ce sens. Peut-être un apport financier, on ne peut pas, mais l'apport, parce que ça aussi, ça a de l'argent. Quand vous donnez des intrants, les intrants, on les paye. Quand on donne les médicaments pour leur permettre de faire tous ces tests-là, c'est des médicaments qu'on a payés, que l'État a payés, que les partenaires ont payés. Donc ça, c'est vraiment l'apport qu'on peut dire exactement dans le sens vraiment de soutien à l'initiative de recherche. C'est ce que nous faisons avec tous les autres chercheurs. Quand ils nous abordent pour des projets de recherche, ce qu'ils peuvent avoir de nous, c'est, actuellement, c'est les intrants, c'est la disponibilité du personnel. Si c'est par rapport aux moustiquaires, les moustiquaires que nous donnons pour pouvoir soutenir ces recherches-là, et nous faisons face à cela. Et c'est ça vraiment qu'on peut considérer comme apport du gouvernement. Maintenant, quand le vaccin va être disponible, c'est ce que je dis aujourd'hui. Soit à travers l'initiative de la solidarité, on peut avoir le vaccin si on n'a pas les moyens, ou si l'État est fort et qu'il dispose des moyens, l'État va se payer des vaccins pour rendre disponibles. Et ça aussi, c'est des choses que nous attendons.
Alors, à quand son homologation par l'OMS?
Bon,
vous avez
je
une
pense
idée,
que
la procédure, comment ça se passe?
Peut-être que le professeur Ducos est mieux placé, mais je pense quand même que les procédures sont beaucoup avancées. Mais seulement, je dirais même homologué, si c'est le mot qu'il faut dire. Mais peut-être c'est des petits détails qu'il faut régler. Comment on peut essayer de mieux l'adapter? S'il y a des petites difficultés encore qui restent, comment nous allons les aplanir pour faire en sorte quand même qu'on puisse dire à tous les pays, voilà ce vaccin, nous allons le mettre à votre... Nous allons recommander à tous les pays de pouvoir les utiliser. Je pense que nous sommes à cette phase de constatation des petites insuffisances à corriger, mais sur le plan pratique, l'OMS a vraiment opté pour le vaccin, a adopté le vaccin. Il reste quand même peut-être de revoir avec ses chercheurs les petits détails qu'il va falloir peut-être soit approfondir la recherche, soit encore faire autre chose, mais pour le moment, je pense quand même qu'on est dans une bonne position.
On est dans une bonne position, on suit la bonne voie. Pouvez-vous nous expliquer, docteur Ducos, la procédure pour l'homologation du vaccin? Ça va prendre combien de temps?
Bon, ce que je peux dire, c'est que, comme j'ai dit, on est c'est sûr qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, le directeur qui est en charge du paludisme, le professeur Pedro Alonso, c'est sûr qu'il travaille nuit et jour pour trouver rapidement les actions qu'il faut pour réduire le poids du paludisme dans le monde. Et la recherche de vaccins est une des constantes dans leur agenda. Ce que je sais, c'est que depuis que les résultats étaient sortis, ils nous ont invités à leur présenter les résultats avant que les résultats ne soient publiés, parce qu'eux, ils ont droit à la primauté de l'information, parce qu'ils savent les études qui sont déjà en cours. Ils savent quand est-ce que les études finissent. Donc, ils nous ont contactés pour que nous présentions les résultats. C'est ce que nous avons fait. C'était au mois de janvier, février déjà. Et depuis, ils étaient en train, ils ont ajouté ça à leur liste de réflexion. Ils ont commencé à discuter de ça. Hier encore, il y avait une réunion sur les résultats qui viennent d'être publiés. Mais une des étapes que l'Organisation mondiale veut voir, c'est d'abord que les résultats soient publiés avant de pouvoir les intégrer dans leur truc. Mais ils sont au courant, ils sont en train de prendre les dispositions. Maintenant, c'est très difficile pour nous de nous prononcer sur leur agenda et sur ce que leurs experts vont concrètement recommander.
Mais nous pensons, vous ne pouvez pas vous prononcer, mais généralement, ça prend combien de temps?
Mais nous pensons il y a deux choses. Si dans les délais et le temps réglementaire au niveau de l'institution les permettent d'avoir une évaluation dans quelques mois, c'est sûr qu'ils vont le faire. Maintenant, si ça doit les prendre une année aussi, pour des raisons, ils peuvent le prendre. Okay? Ils peuvent prendre une année. Mais nous ne pensons pas que ça va aller au-delà, honnêtement, de une année. Ça ne va pas aller au-delà d'une année. Donc peut-être qu'en octobre, parce que les résultats viennent juste de sortir, ils viennent de sortir en août, okay, le 25 août. Ils ont une réunion de décision, ils doivent prendre des décisions le 6 octobre. C'est possible qu'ils fassent une décision par rapport à ça. C'est possible que le temps entre la publication et ce délai du 6 octobre de décision peut ne pas être complètement suffisant pour eux et que ça prenne un peu plus. Mais tout ça, on ne peut pas préjuger. Mais je sais que ça ne va pas prendre du temps. Ce qui est le plus difficile en réalité, c'est de trouver quelque chose qui est efficace et qui est scientifiquement incontestable. Et c'est ce que nous avons apporté. Donc je pense que le reste de la tâche est facile. On ne préjuge pas de ce qu'eux, ils vont faire, parce que c'est leur responsabilité. Chacun a sa tâche dans ce système. Mais nous pensons que ça ne va pas prendre du temps et qu'ils vont mettre ça à la disposition des populations très, très rapidement.
Docteur Régis Assisi, est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a une manière pour les pays africains ou les labos, les pays africains impliqués dans l'élaboration de ce vaccin pour accélérer le processus?
Oui, c'est vraiment un élément clé. Hein. Quand il y a un vaccin, comme il l'a dit, l'accès au vaccin, c'est un autre problème parce qu'il faut les ressources pour avoir accès au vaccin. Donc, pour nous, aujourd'hui, la première étape, c'était d'informer le département sur la prouesse que, en tout cas, nos chercheurs ont pu faire. Le département aujourd'hui est très fier de ce résultat parce que vous étiez, je ne sais pas où l'équipe était là-bas à la restitution. Et avant cela, il y a une année, Madame la ministre à l'époque disait, mais qu'est-ce qu'on attend pour avoir les résultats? Donc je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Donc c'est pour dire qu'il n'y aura aucun doute pour ce qui concerne l'engagement politique. Maintenant, quand un pays est engagé, certainement, on trouvera les ressources. Mais comme je l'ai dit, à défaut de trouver les ressources, comme dans le contexte Covid, il y a la solidarité internationale. En Afrique, on a eu le vaccin, mais ce n'était pas évident au départ. Mais c'est dans un contexte regroupé que les pays donateurs ont pu ouvrir une brèche pour faciliter, en tout cas, les pays qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir avoir accès à ces vaccins. Nous pensons que c'est une autre voie, que le Mali peut aussi, dès que les vaccins vont sortir, par vraiment la volonté politique de pouvoir vraiment nous positionner très rapidement dans les pays qui vont avoir la primauté de ce vaccin. Quoi de plus normal? Quand les recherches sont faites chez nous, nos populations, les gens qui ont été les cobayes, ils seront certainement fiers de pouvoir obtenir les premières doses. Je pense quand même que ce n'est que quand même justice rendue.
Le Mosquerix non donné à ce vaccin contre le Pali sera-t-il à la portée de tous les Africains?
Je le souhaite, parce que ce que je dis, le Pali aujourd'hui, qui regarde, qui voit les dégâts causés par le Pali, je pense que pour tout pays, si les moyens sont là, je suis sûr qu'on ferait tout pour quand même pouvoir casser la chaîne, faire en sorte quand même qu'on puisse sortir vraiment de ces décès, comme je l'ai dit aujourd'hui. Il est inconcevable de voir les enfants mourir de paludisme.
Avez-vous une stratégie au niveau du département pour faciliter son accès à la population?
Bon, je pense que nous sommes une direction engagée dans la coordination. Nous avons ce rôle, en tout cas, de faire le plaidoyer auprès du département. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Faire en sorte que le département puisse comprendre et intégrer l'enjeu, en tout cas, de pouvoir s'approprier. Mais voir, parce que qui dit décideur, c'est ceux qui financent, c'est ceux qui donnent l'argent. Aujourd'hui, si nous arrivons à convaincre, le département est déjà convaincu, convaincre aussi les financiers accompagnés, et je pense quand même que l'accès au vaccin ne poserait pas énormément de problèmes. Donc c'est un travail que nous devons faire, continuer, et je pense que je salue l'opportunité que vous nous donnez, parce que demain, beaucoup de gens vont comprendre tout ce que nous avons dit et beaucoup de gens vont se mettre avec nous pour essayer de faire ce combat. Ce combat, c'est de faire en sorte que tous les Maliens, en tout cas où qu'ils soient, puissent disposer en tout cas de ce vaccin, mais surtout par rapport à la couverture des enfants, en tout cas avant 5 ans, et les femmes enceintes. Ce n'est pas le vaccin pour les femmes enceintes, mais quand même pour les enfants, on puisse quand même les protéger. Aujourd'hui, les enfants souffrent énormément. Si on arrive à avoir ce vaccin, je suis sûr que nous allons beaucoup avancer dans la lutte contre le paludisme.
Professeur Diko, je voudrais vous poser les mêmes questions. Dans votre centre de recherche, je suppose qu'il y a un volet social. Comment faire aujourd'hui pour que ces vaccins-là soient à la portée de toute la population?
Je pense qu'il y a la mission de recherche de ce que nous faisons. Il y a le travail étroit avec le gouvernement et les autorités. Le docteur Cissé l'a dit, il y a un accompagnement, un suivi du ministère de la Santé et du Développement Social à travers le programme national de lutte contre le paludisme constant avec les chercheurs pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en œuvre. Si nous prenons le cas de la chimioprévention du paludisme saisonnier, par exemple, ça a été suivi de très proche par le gouvernement du Mali. Et quand la stratégie a été recommandée, le Mali fait partie des premiers pays qui ont commencé la mise en œuvre. Et le Mali a été le premier pays à avoir une couverture nationale complète de la stratégie. Alors que tous les autres pays sont encore en train de chercher à couvrir l'ensemble de leur territoire. Donc ça montre que, et je peux vous dire que les premiers médicaments pour la CPS, c'est le gouvernement qui les a commandés. Ils ont été payés par le gouvernement du Mali. Donc il y a un support gouvernemental qui est là, pour retourner un peu à la question que vous avez posée avant. Nous travaillons avec les services de santé dans les zones où nous sommes. Nous sommes basés dans les centres de santé, où nous avons un support, tout le support du gouvernement. Nous sommes nous-mêmes des fonctionnaires. Beaucoup d'entre nous sont des fonctionnaires. Certes, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas encore fonctionnaires. Nous espérons que le gouvernement fait à chaque fois des efforts pour prendre en charge le personnel additionnel. Mais il y a vraiment un apport, nous avons tout l'apport qu'il faut pour le gouvernement, que le gouvernement nous apporte. Nous travaillons avec eux. Il faut faire l'autre aspect, c'est qu'il faut faire du lobbying. Du lobbying au niveau des partenaires internationaux et des partenaires qui financent. Et là aussi, le Mali est bien représenté. Nous sommes très bien représentés au niveau des organes de décision sur le plan scientifique. Nous avons des gens comme le ministre, le professeur Sambasso, qui sont dans des comités très avancés au niveau de l'OMS et au niveau mondial. Nous avons la chance d'avoir le professeur Ablaye Dimdé, qui est aussi au niveau des comités scientifiques internationaux très élevés. Et nous travaillons régulièrement. Nous sommes régulièrement invités pour des réunions à l'Organisation mondiale de la santé où ils demandent notre avis sur un certain nombre de choses. Ce qui nous permet de non seulement mettre les faits, mais de faire en sorte, faire le plaidoyer pour que, comme Dr Cissé l'a dit, les pays où les recherches sont conduites et que les pays qui sont disponibles à s'engager très rapidement puissent être engagés et puissent être supportés par les partenaires afin que la stratégie puisse arriver aux populations.
Vous allez certainement me répondre que le vaccin n'est pas encore sur le marché. Mais est-ce qu'on peut savoir, ce vaccin-là, il sera gratuit ou le coût? Vous avez une idée comment ça sera vendu?
Le coût va être déterminé. Ce qui est sûr, c'est que le coût, c'était prévu que le coût ne soit pas un coût plus élevé, plus exorbitant que les autres vaccins que nous avons pu mettre dans nos programmes de vaccination.
Et le seuil, c'est combien pour les autres vaccins?
Le seuil, le directeur peut vous
alors,
dire.
Monsieur le directeur, vous avez une idée, le seuil pour les autres vaccins, c'est combien?
Bon, je n'ai pas idée.
On sait que le vaccin n'est pas sur le marché.
C'est vrai.
Oui, allez-y, professeur.
Oui, non. Le seuil, ça va être supportable. On ne pense pas que le vaccin... c'est une capacité de production. Et les gens travaillent. Une fois que quelque chose est efficace, les gens trouvent les moyens. Quand c'est fabriqué par un petit groupe, un seul groupe, dans un pays industriel, le prix est élevé. Si on veut diminuer les prix, ce qu'ils font, c'est que très rapidement, on délocalise le système de production dans un pays. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour la COVID. On a transféré beaucoup en Inde et dans d'autres pays pour accélérer la production. Et dans le même cadre, on a déjà signé un contrat en janvier, quand ils avaient vu nos résultats, avec une compagnie indienne qui va être autorisée à produire le vaccin. Ça, c'est une information que je peux vous donner pour que ça puisse avoir une production de masse suffisante et à un coût abordable pour les pays. En général, le coût n'est pas encore un problème. Ce qui est le plus difficile, c'est de trouver quelque chose qui marche. Et quelque chose qui marche pour une maladie aussi importante, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait un problème de financement.
Alors, je veux poser une dernière question qui me tient moins à cœur. Vous êtes avec des journalistes dans une boîte de communication. Comment s'organise alors la communication autour de ce futur vaccin? Je commence par vous, monsieur le directeur national du programme de lutte contre le paludisme.
Merci beaucoup. Je pense quand même qu'il fallait d'abord que la communication soit portée au niveau de l'organe qui est le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, qui en a pris en tout cas bonne note de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Mais comme je le dis encore, nous avons voulu porter cette information à l'attention de la presse. Nous l'avons fait aussi. Vous avez été témoin des résultats. Et je pense aussi que c'est une deuxième étape. Une troisième étape, nous allons regrouper tous les spécialistes de la santé, je veux dire tous les acteurs de la santé, pour leur donner aussi l'information. Parce que pour vous, il y a des détails techniques que peut-être si on rentre, c'est difficile pour vous de comprendre. Mais aujourd'hui, demain, nous allons être avec la santé. Ils vont rentrer dans tous les détails du vaccin pour que ceux-ci comprennent, mieux les préparer pour aussi qu'ils soient mieux outillés pour demain, si on devait rentrer là-dedans, ils ont une large connaissance du vaccin. Donc, il faut vraiment relayer l'information de façon générale, en attendant que le processus, comme vous l'avez dit, d'homologation arrive, en attendant aussi qu'on puisse un jour très rapidement l'intégrer dans notre politique et voir demain et l'appliquer sur le terrain. Ça trouve que déjà, nos acteurs sont bien formés, ils ont une connaissance du vaccin et déjà comment ça va se faire, nous allons travailler de concert avec nos structures de santé. Mais comme je l'ai dit, nous sommes ouverts avec nos chercheurs. Et à chaque fois aussi, ils nous donnent des directives en matière de comment ça doit se faire. Et vous avez vu, on a parlé de CPS. Ils nous ont orientés sur l'efficacité de ces médicaments. Ça fait des années qu'on les utilise et avec efficacité sur le paludisme. Si nous n'avons pas trop de décès en période de pluviométrie, c'est parce que nous appliquons la CPS. Et ça, ça reste d'efficacité. Et ils continuent la recherche parce que quand il y a les médicaments, on découvre les médicaments, il faut suivre. Parce que les médicaments, à un moment donné, peuvent avoir des changements pour ne pas être efficaces. Donc, il faut quand même que la recherche continue à évoluer, à suivre ces médicaments dans le temps pour voir et nous dire à quel moment, vraiment, vous utilisez ces médicaments, maintenant, ces médicaments ne sont plus efficaces. Ou ça reste efficace, vous pouvez continuer à l'intégrer. Dès l'instant, ils constatent le moins doute de l'inefficacité, parce qu'aujourd'hui, c'est les combinaisons de médicaments que nous utilisons, moins d'efficacité d'une telle ou telle molécule. Ils nous annoncent cela et on nous annonce également quelle est la molécule qui peut se substituer à celle, en tout cas, qui n'est plus d'efficacité. Donc, c'est dire que vraiment, il y a un suivi très, très rapproché et que nous faisons avec nos chercheurs ici qui soient...
La prouesse, cette bonne nouvelle a été annoncée cette semaine. Alors, comment s'organise la communication autour de ce vaccin?
Bon, je pense que le département de la santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme...
Est-ce que le centre de recherche n'a pas un volet communication?
Nous avons un volet communication, mais la communication scientifique. Nous avons aussi un volet communication. Mais ici, quand il s'agit de stratégie qui va aux populations, le département de la santé est mieux à mesure de faire cet aspect et ce qu'ils sont en train de faire de façon magnifique, je dirais. Nous avons déjà rencontré le secrétaire général du ministère qui a été briefé. Et depuis, ils ont lancé la machine pour organiser la conférence de presse que vous avez vue. Et ils sont en train de travailler avec vous, comme vous voyez, le docteur Cissé a laissé ses occupations pour venir parler de ça. Donc la communication, ça se passe très très bien, je pense que c'est engagé. Et c'est engagé aussi sur le plan international. Avant de terminer, je voudrais aussi vraiment, si vous permettez, dire un mot pour vraiment les populations de Welesebougou, les populations de Bougouni, les populations de Koumantou. Je voudrais ici les remercier pour la collaboration. Parce que sans eux, c'est eux qui ont permis que cette étude soit. Ainsi que les autorités sanitaires du Mali et les collaborateurs internationaux, notamment le professeur Brian Greenwood, qui est un des grands supporters du Mali et de l'Afrique.
Merci à nos invités. C'est la fin de cette émission dont le thème central était « Bientôt un vaccin contre le paludisme ». Ils étaient avec nous, Dr Idrissa Cissé, coordinateur du programme national de lutte contre le palud PNLP, professeur Alassane Diko du centre de recherche Ogobara Dumbo de l'unité de recherche clinique de Bougouni. Je suis Mariam Maïga, à la régie vidéo son, il y avait Salim Djouara et Nouhoum Djiré. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Gmoun.
Chienne Berry.